Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs et auditrices de la web radio du Rage, bonjour, Azul Flawan, Sbar Khair Alikoum. La semaine d'octobre continue pour parler des événements d'octobre 88, du 30e anniversaire de ce soulèvement populaire qui a permis à l'Algérie d'aller vers un pluralisme politique, syndical. 30 ans après, ça mérite une pause, ça mérite un débat, un petit bilan et surtout discuter des perspectives. Pour cela, chaque fois, on a l'honneur de recevoir, on reçoit des, sur le plateau de la radio des acteurs associatifs, syndicaux, politiques, journalistes et militants. Cette fois-ci, nous avons l'honneur de recevoir une autre fois Madame Louisa Drissait Hamadouche, qui est enseignante politologue et enseignante à la faculté de sciences politiques à l'Université d'Alger. Merci Madame et bienvenue.
Merci à vous. Merci à vous de m'avoir reçu et bravo pour cette initiative.
Merci. Donc, je vais commencer, comme d'habitude, par une question qu'on pose à tous nos invités. En tant qu'Algérienne, quand même, comment vous avez vécu les événements d'octobre 88?
Eh bien, j'étais jeune lycéenne. Donc, pour moi, c'était mon premier choc avec le monde de la politique aussi, d'une façon aussi brutale, dans la mesure où je me souviens que nous étions en classe, comme d'habitude, et que brusquement, nous avons entendu un immense chahut à l'extérieur, et des lycéens venus d'autres lycées étaient venus pour exiger que la surveillante générale de l'époque ouvre les portails et nous laisse sortir. Et je crois que ce groupe d'étudiants et de lycéens avait fait lycée par lycée pour vider toutes les structures de l'époque de ceux qui l'occupaient. Je me souviens avoir vécu cette semaine de façon très très tendue. Pour moi, il se passait quelque chose de grave, quelque chose d'important. Je me souviens que j'étais littéralement scotchée à la radio, et plus précisément aux chaînes étrangères qu'on pouvait capter. C'est de ces chaînes-là qu'on avait les petites brides d'informations, les heurts, les affrontements, les morts. Je me souviens du bruit des balles qui retentissaient. J'habite à Bouzaléra et donc on entendait au niveau du sens ce qui se passait. Je me souviens de l'inquiétude de mes parents, parce que pour eux, même si on n'en parlait pas de façon aussi ouverte à l'époque, pour eux aussi, ce qui se passait était dangereux, était inédit, était avec quelque chose d'effrayant, et en même temps, on sentait que ce qui se passait allait laisser des traces, et effectivement, ça a laissé des traces. Et je me souviens aussi, puisqu'on est en plein dans les souvenirs personnels, c'est que l'année suivante, en cours d'histoire où on avait de l'éducation Tarbiya Madani à l'époque, ce qui représente aujourd'hui
l'éducation civique.
Exactement, nous parlions des structures du FLN et on parlait de la cellule, l'Khaliya. Et notre professeur de l'époque nous expliquait avec beaucoup d'acharnement que la cellule du FLN, parti unique encore, avait pour but d'encadrer la société et de faire en sorte que les revendications de la société arrivent de la base au sommet. Et la première question qui m'était venue à l'esprit, et je lui ai dit, d'accord, mais si le Khaliya fonctionnait aussi bien, pourquoi il y a eu ce qui s'est passé en octobre? Et c'est là qu'elle m'a dit, Aït Hamadouche, Ntia, Minalma Flout, Deli Ulum Siyasiya.
C'est à partir de là que vous avez l'intention
de
faire.
Oui, je pense que ça a eu un très très grand impact.
Donc
dans...
il a le mérite aujourd'hui, cet enseignant.
Absolument.
Justement, à chaque fois qu'on écoute des interventions des uns et des autres sur la radio, nos invités, on sent cette spontanéité du mouvement. Et ça veut dire personne qui s'attendait à ce soulèvement. Il y a beaucoup, ça veut dire pour beaucoup de gens c'est une surprise. Et donc je relis ça avec ceux qui disent qu'il y a de la manipulation. Ça veut dire j'aimerais bien avoir votre avis là avec 30 ans, ça veut dire de recul. Est-ce que réellement il y a de la manipulation? Est-ce que réellement le peuple algérien à l'époque il n'était pas prêt pour sortir dans les rues? Et ça veut dire, elle répond à un plan fait au sommet du pouvoir pour régler leurs problèmes et faire les équilibres.
Bien, je vais vous dire, pour moi, un mouvement social, c'est comme un train. Un train, c'est une locomotive et des wagons. L'explosion sociale en elle-même, les mouvements, les contestations, l'affrontement, la mobilisation de la rue, tout ça, c'est pour moi, c'est la locomotive, ce sont les wagons. Un train ne peut pas avancer sans locomotive, aussi puissant qu'il puisse être, aussi moderne qu'il puisse être, aussi beau qu'il puisse être. Ça signifie quoi? Cette image, c'est pour dire que je pense profondément que les motifs de la colère sociale étaient présents, pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons de justice, mais qu'il n'y aurait pas eu cette explosion sociale s'il n'y avait pas une locomotive pour la faire exploser. Alors cette locomotive, on pourra lui donner tous les noms qu'on voudra. On pourra dire qu'il y a eu à l'époque une dissension au sein du FLN entre les réformateurs et les conservateurs. On pourra dire que le mouvement islamiste avait atteint un degré de maturité qui lui a permis d'émerger à cette époque. On pourra dire que l'opposition traditionnelle de gauche avait atteint ses limites et qu'elle s'était faite déborder par d'autres forces politiques. On pourra dire tout ce qu'on voudra. Pour moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y avait, les wagons étaient présents, étaient rattachés les uns aux autres. Donc le contexte avait atteint un degré de maturité pour l'explosion sociale, et qu'en parallèle, il y a eu une volonté, qu'elle soit de la société politique ou de la société civile, pour donner corps à ce mouvement. Parce que ce mouvement n'aurait pas pu être aussi national s'il n'y avait pas eu des forces politiques pour le porter. Et il aurait eu le sort qu'ont eu d'autres contestations qui sont restées circonscrites, qui sont restées limitées, sans discours de légitimation et sans discours de revendication. Le fait qu'il y ait eu des suites, le fait qu'il y ait eu un discours politique pour donner corps à cette colère sociale, montre qu'il y a eu une volonté de faire en sorte que ce qui est arrivé, arrive.
Mais ça, si on part d'encadrement, ça veut dire qu'on a trouvé que le mouvement, à certains moments, a échappé à l'ensemble du pouvoir. Il y a après les islamistes qui sont venus, en quelque sorte, ils l'ont encadré et récupéré. Et les forces progressistes démocratiques qui activent dans la clandestinité, elles étaient en quelque sorte dans le retrait. Et c'est pour cela que le fils, après, il a pu, ça veut dire, avoir une place importante dans la société d'une manière générale.
Mais en fait, vous disiez, au bout de 30 ans, qu'est-ce qu'on retire de ce 5 octobre ? Moi, j'en retiens deux choses. D'abord, c'est un motif de fierté, parce que les Algériens ont démenti, ont contredit l'idée selon laquelle le monde arabe, bon, on ne va pas polémiquer sur l'arabité ou pas, en tout cas sur l'idée que les peuples de cette région n'étaient pas prêts à se soulever et n'étaient pas faits pour la démocratie. Les Algériens ont été les premiers à démentir ce postulat qui a régné pendant très très longtemps. C'est un motif de fierté très important pour moi. Maintenant, cette fierté est accompagnée de beaucoup de regrets. Pourquoi des regrets? Parce que, un, je crois que c'est une opportunité ratée par ce que vous appelez les forces progressistes, les forces démocratiques, les partis politiques qui auraient pu donner une substance, qui auraient pu donner une continuité, qui auraient pu donner du contenu à cette explosion sociale, qui aurait pu reconstruire quelque chose sur ce qui avait été détruit, c'est-à-dire le parti unique. Ce mouvement a détruit, a mis à mal le système du parti unique, mais n'a pas réussi à construire une alternative viable. Deuxième regret, c'est que ce mouvement a été récupéré par deux types d'acteurs essentiels. Le premier, vous l'avez cité, ce sont les partis les moins compatibles avec la démocratie. Les partis qui avaient un discours populiste, radical, extrémiste, et qui ont su optimiser la colère et en faire de la haine. Parce que de passer de la colère contre un système à la haine contre ce système, il y a un pas que l'Algérie a franchi à cette période-là. Le deuxième acteur qui a récupéré ce mouvement, c'est le système politique lui-même.
Pour sa pérennité.
Exactement. Il est quand même ironique, 30 ans après ou 25 ans après, de voir que c'est l'autorité politique elle-même qui glorifie le 5 octobre. c'est le système politique lui-même qui dit oui, mais nous, nous n'avions pas besoin du printemps arabe 2011 parce que nous avions eu notre printemps en 88. Donc cette valorisation a posteriori est une récupération du mouvement de 88, aussi vrai que la question amazigh a été récupérée également en nationalisant et en officialisant la langue. Donc voilà mes regrets et voilà l'opportunité qui pour moi a été ratée.
Voilà, donc qu'on veut nous dire comme une opportunité ratée, mais quand même 30 ans après, si on regarde aussi ces acquis démocratiques chèrement arrachés, aujourd'hui, on est dans une situation d'une façade démocratique. Ça veut dire, et réellement, il n'y a pas l'exercice démocratique. Quand on voit les libertés démocratiques, les libertés associatives, syndicales, le respect des droits humains sont bafoués quotidiennement. Ça veut dire on a en face un système qui a une façade pour la consommation et pour une façade de dire que c'est un système démocratique, mais réellement on peut dire que, comme quelqu'un a dit, on a passé de parti unique en multipartisme unique.
Oui, où on serait passé du, où, en fait je crois qu'on est dans un système multipartite mais sans pluralisme. Il y a une multitude de partis politiques, c'est tout à fait exact, mais nous n'avons pas de véritable pluralisme. Pourquoi ? Les raisons, elles sont à chercher à deux niveaux. Vous accusez le système politique, mais en fait, vous parlez du pouvoir politique. Parce que le système politique, c'est un ensemble dans lequel on retrouve le pouvoir politique, c'est-à-dire le gouvernement, l'exécutif essentiellement, l'ensemble des institutions de l'État, mais aussi les autres acteurs, les partis politiques, les associations, les syndicats, tout cela forme le système politique. Je crois personnellement que nous sommes dans un système politique multipartite et non pluraliste. Pluraliste pourquoi ? Il y a d'une part les raisons que vous évoquez, c'est-à-dire que lorsqu'on observe la relation de haut en bas, du sommet vers la base, il y a effectivement des restrictions dont vous parlez, des restrictions aux libertés individuelles, aux libertés collectives, aux libertés religieuses, il y a des atteintes aux droits de l'homme, il y a la justice qui n'est pas aussi indépendante qu'un système pluraliste devrait l'être. Il y a tout un tas de critiques qui sont d'ailleurs reconnues par les gouvernants eux-mêmes en disant « c'est une expérience récente, nous ne sommes pas encore arrivés au stade de maturité comparable aux démocraties plus anciennes ». Ils justifient aussi ces insuffisances en disant que nous sortons d'une situation difficile où la priorité était à la sécurité.
La sécurité, la stabilité.
Exactement. S'il fallait prioritariser entre la sécurité et les libertés, le peuple, à travers les différentes élections, et les gouvernants ont choisi la sécurité. Donc il y a la première responsabilité, celle des gouvernants. Mais ils ne sont pas, malheureusement, les seuls responsables. Je crois que l'absence de pluralisme, l'absence de projets différents, l'absence de pluralisme dans le discours, l'absence de pluralisme dans les projets proposés, l'absence de pluralisme dans la pratique politique, elle est aussi due aux acteurs eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple. J'ai été frappée cet été de voir que nous étions en train petit à petit de régresser, de retourner vers un clivage idéologique laïque islamiste à travers les fameuses prières collectives qu'on a observées dans différentes régions du pays, à travers la résurgence des manifestations de religiosité exacerbées.
L'interdiction des manifestations culturelles.
Exactement. Les histoires des jeûneurs qu'on a vécu plusieurs années, des non-jeûneurs qu'on a vécu plusieurs années de suite.
L'harcèlement des filles dans des lieux publics.
Exactement. Tous ces éléments ont été... en tout cas par une partie des médias, une partie de l'opinion publique et une partie des partis politiques, attribués au retour de l'extrémisme religieux face à une société qui serait moderniste, laïque. Pour moi, ce clivage est extrêmement dangereux. Pour moi, ce clivage est simpliste, réducteur, est extrêmement dangereux. Nous sommes passés par là.
On n'a pas tiré des leçons.
Absolument, et j'ai peur que nous n'ayons pas tiré de leçons. Les Tunisiens sont juste à côté et ils ont fait attention à ne pas exacerber ce genre de clivage alors que leur démocratie est toute récente et qu'effectivement, il y a d'une part ceux qui se revendiquent de l'héritage de Bourguiba moderniste, laïque, et ceux qui se revendiquent d'un parti qui a gagné toutes les élections jusqu'à présent. Je crains que nous n'ayons pas tiré les leçons. Ce clivage qui fait que nous divisons la classe politique, la société civile en islamistes, je mets tout ça entre guillemets, hein, islamistes, radicaux, extrémistes, d'une part, et d'autre part, modernistes, laïcs, démocrates, c'est un clivage qui ne bénéficiera à une seule partie, c'est le pouvoir politique en place.
Donc c'est une opportunité pour se maintenir encore et garder ses intérêts.
Tout à fait. C'est déplacer la bataille politique. Si la bataille politique de l'Algérie d'aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que la transition bloquée redémarre et que le système, que le processus de démocratisation se poursuive pour arriver à son terme, je suis presque sûre que le chemin que nous empruntons, qui consiste à réalimenter ce clivage que nous avons déjà connu, va nous ramener 20 ans en arrière.
Justement, dans ce contexte, le pouvoir n'est pas effectif. Il est premier responsable. Mais aussi les forces politiques et les dynamiques, ils ont une part de responsabilité. Si on observe aujourd'hui la classe politique, on la trouve dispersée, divisée. À un certain moment, on a vu des initiatives juste après ce qu'on appelle le printemps arabe, des coalitions de partis politiques, des initiatives de partis politiques, mais avec le temps on a vu que ça veut dire que c'est des initiatives qui vont pas loin. Donc comment expliquer cette faiblesse de la classe politique algérienne? Est-ce que, certes, il y a le blocage du pouvoir, ça veut dire qu'il étouffe, ou là, il y a aussi le manque de vision et de stratégie en moyen et à long terme pour la classe politique en général?
Et il y a encore autre chose. Je crois que le problème est dans les acteurs et dans les projets qu'ils prétendent défendre. Les acteurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des partis politiques qui, pour la plupart, défendent l'idée selon laquelle ils sont là, ils existent, ils s'activent pour faire aboutir la démocratisation de l'Algérie. Ça, c'est dans les discours. Mais dans les faits, on observe bien que, j'allais dire l'écrasante majorité, mais je ne vois même pas d'exception, hein, donc c'est quasiment tous les partis politiques qui subissent et qui sont gérés de façon pour le moins peu démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti politique dans ce pays qui arrive, par exemple, à dépasser les dissensions internes sans que ces dissensions ne se transforment en implosion du parti politique. Aujourd'hui, il n'existe pas un parti politique qui n'a pas son frère ennemi, c'est-à-dire son clone. Et le clone ne va pas dans le sens d'alimenter le pluralisme. Il va dans le sens d'affaiblir le parti originel plutôt. Donc chaque parti a son double, et son double est là pour l'affaiblir.
Il affaiblit
tous les partis, de toutes les obédiences. Et ça, c'est quand même problématique. On ne peut pas toujours accuser l'autre, on ne peut pas toujours accuser le pouvoir politique de faire ce que les partis politiques sont incapables eux-mêmes de faire. Peu de partis politiques connaissent une alternance à leur tête de façon apaisée. Peu de partis politiques arrivent à dépasser leurs divergences politiques, parce qu'un parti politique, c'est quand même des idées. Hein,
avant de façonner, un projet politique.
Exactement. Avant de façonner le projet, je vais y arriver, ce sont d'abord des idées qui doivent être brassées, qui doivent être discutées, qui doivent être contredites au sein de la structure pour parvenir à un consensus minimum. Or, les partis politiques algériens ont du mal à dépasser le zérimisme, ont du mal à appliquer au sein de leur propre structure la transparence nécessaire pour dire « moi, je veux une Algérie démocratique, donc j'applique la démocratie sur mon parti en premier lieu ». C'est une difficulté que les partis politiques ont du mal à appliquer sur eux-mêmes. Donc ça, c'est le premier élément. Les partis politiques sont donc structurellement faibles. Ils sont faibles de l'intérieur. Et bien entendu, les forces extérieures vont dans le même sens, c'est normal. Le deuxième élément, c'est le projet. On peut parler de projet politique, on peut parler de programme politique. Là aussi, il y a une grande difficulté à lire le projet d'un parti politique de façon claire. De façon... On ne sait plus si, par exemple, tous les partis politiques, tous, se réclament du 1er novembre. Tous, sans exception. Tous valorisent l'institution militaire de ce pays. Tous disent que les constantes sont sacrées. Tous disent que l'Algérie a connu une décennie noire et qu'il ne faut pas y revenir et qu'il faut aller de l'avant. Tous disent la priorité à la sécurité. Tout ça pour dire quoi ? En fait, au-delà des catégorisations généralement admises, celui-ci est nationaliste, et celui-ci appartient à la tendance nationaliste, celui-ci appartient à la tendance islamiste, celui-ci appartient à la tendance libérale ou démocratique. En fait, quand vous observez à l'intérieur des projets, vous observez plus de points communs que de divergences. Donc, premier élément.
Ça veut dire dans le fond, il y a la convergence.
Il y a beaucoup de convergence. Et pourquoi on retrouve cette convergence ? C'est parce que les partis politiques, exception faite de quelques-uns, ont du mal à faire émerger un programme politique qui leur soit propre. Certains, par exemple, vous diront, certains arrivent à émerger en disant « Nous, notre projet essentiel, c'est la régionalisation. » Donc, c'est un parti politique qui se distingue avec ça. D'autres diront « Moi, mon projet, c'est la moralisation de la vie politique grâce à travers des valeurs religieuses. » Mais en fait, aucun parti politique ne niera l'importance des valeurs religieuses dans ce pays. Aucun parti politique ne niera l'importance du 1er novembre comme l'un des mythes fondateurs de l'État algérien. Ça, ce sont des acquis. On ne peut pas bâtir un projet politique sur ça. On ne peut pas bâtir un projet partisan, le projet d'un parti politique, sur le patriotisme. Le patriotisme appartient à toute
la nation.
La religion appartient à tous. La culture appartient à tous. La majorité appartient à tous.
Ça veut dire qu'il y a l'absence d'un projet politique qui définit quelle société voulons-nous, quel pays, quel État, quel système politique nous voulons pour l'Algérie. Jusqu'à présent, on n'a pas de réponse à ces questions.
L'opinion publique n'a pas de réponse suffisamment claire, oui. Et preuve en est le taux de participation aux élections.
Aux élections, il y a un désintérêt, oui.
Aucun parti politique n'arrive à mobiliser. Et pire encore, même les partis politiques qui avaient une assise sociale dans des régions particulières, même là, il connaît aujourd'hui des difficultés parce que les ressorts de son discours ne font plus sens aujourd'hui.
Aujourd'hui aussi, nous sommes face à une autre génération de la population. Donc là, le discours qui a marché il y a 20 ans, il y a 10 ans, il ne peut plus faire foi cette fois-ci. Donc il faut s'adapter aux attentes, s'adapter à la société de l'heure actuelle.
D'une part, il faut s'adapter à la société d'aujourd'hui et il faut aussi tirer vers le haut. Il faut tirer la société vers le haut. Quand je dis s'adapter, ça ne veut pas dire qu'il faut parler aux jeunes Algériens en disant « Kulch normal » ou « Chita normal ». Non, ce n'est pas ça.
Ça, on l'a constaté juste pour rebondir sur ça. Lors du sondage que nous avons mené durant les élections législatives passées, ce qu'on a conclu, que les jeunes, par exemple, s'ils ne s'impliquent pas dans la politique, ce n'est pas par ignorance, c'est parce qu'aussi, en tant que jeunes, ils n'ont pas trouvé une offre politique sérieuse, porteuse d'une vision claire, porteuse d'un projet à moyen et à long terme. Donc c'est pour cela qu'il y a ce retrait. Mais sinon, je dirais que individuellement, notre société, il y a de l'éveil, il y a de la conscience.
Il y a sans doute de la conscience politique, mais qui va dans le sens de rien de bon ne sort de la politique. Donc oui, c'est une conscience politique, mais qui est répulsive, qui n'est pas attractive. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les batailles politiques semblent sans enjeu. Aucune élection n'amène le suspense nécessaire pour attirer les électeurs. Nous savons d'avance
que les résultats, comment ils sont,
quelles seront les forces politiques émergentes, quelles seront les forces politiques qui maintiendront qui se maintiendront aux premières places. Donc, sans suspense, ben c'est comme un match de football. Hein. Si vous savez à l'avance qui va gagner, vous n'allez pas regarder le match de football. Donc, les élections, la vie politique, c'est la même chose. La deuxième raison, c'est qu'il y a, aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, grâce à la presse, il y a de plus en plus toutes les révélations qui sont faites sur les partis politiques, sur le monde politique, sur les scandales politico-médiatiques, tout cela aujourd'hui est su. Donc quand l'opinion publique sait comment est faite une liste électorale, qui paye quoi, combien, comment, à qui, ce qui était occulté par le passé, aujourd'hui,
c'est dans l'espace
public, exactement. Et ce type d'information, autant a un aspect très positif parce qu'il révèle la réalité des choses et c'est nécessaire, c'est indispensable même, autant il a un effet de dissuasion en disant « si la classe politique, permettez-moi l'expression, est pourrie, pourquoi irais-je cautionner et m'engager dans une telle action politique ?»
Je veux bien avoir votre avis sur l'opposition en Algérie. Il y a beaucoup d'initiatives. Pourquoi ils n'aboutissent pas? Pourquoi ils n'arrivent pas à travailler ensemble? À certains moments, on a vu des regroupements de plusieurs partis. Après, chaque parti s'est retiré. Est-ce que c'est dû d'une stratégie où quelqu'un se voit comme un leader ou qu'est-ce qui ne va pas exactement dans la classe politique algérienne aujourd'hui?
Beaucoup de choses ne vont pas.
Malheureusement.
Beaucoup de choses ne vont pas. En fait, je voudrais pas être trop dur vis-à-vis des partis politiques parce que ils évoluent dans un contexte qui n'est pas du tout favorable. Donc en fait ça
n'empêche pas qu'ils ont des responsabilités, ils ont des choses à faire.
Mais ces responsabilités, elles sont à plusieurs niveaux. Par exemple, un parti politique d'opposition, quel choix a-t-il face à une élection, par exemple? Je parle de l'élection parce que j'ai en tête la coordination, la fameuse coordination nationale pour la transition, la transition démocratique et les libertés, qui avait offert à un moment donné l'espoir ou une perspective pour une opposition unie. Cette initiative, pourquoi j'en parle? Parce que c'est la première initiative qui a réussi à regrouper
un nombre important de partis politiques.
Et surtout de tendances idéologiques très différentes. C'est une initiative qui a permis de dire que le clivage dont on parlait tout à l'heure...
Idéologique.
Est un faux clivage, qu'il ne faut pas revenir sur un tel clivage qui divise l'opposition et qui renforce le pouvoir politique en place. Cette initiative n'a pas survécu au premier test qui était les législatives. On pourrait considérer que cet échec conforte l'idée selon laquelle les partis politiques confondent tactique et stratégie. Et que la tactique l'emporte sur la stratégie. Et qu'ils ont sacrifié, entre guillemets, une alliance pour des raisons, pour des motivations proprement individuelles aux partis politiques. Cette motivation est l'élection législative. C'est la première lecture. Et qui est argumentée. Hein. C'est une lecture qui a ses arguments, puisque de toute façon, c'est effectivement ce qui s'est passé.
Juste à l'arrivée des élections, c'est tous les partis politiques qui jouent pour lui. Effectivement.
La coordination a commencé à imploser avec Mazafran 2, parce que déjà, il y avait la perspective des législatives qui venaient. Mais en même temps, mettons-nous aussi à la place de ces partis politiques d'opposition, quelle autre alternative avait-il? Soit la participation, soit
le boycott.
La participation, elle pouvait être de deux ordres, soit en rang dispersé, soit en étant
collectivement.
Collectivement, exactement. Prenons un précédent, d'une coalition faite de partis politiques qui était l'Alliance Verte. Je vous rappellerai que les résultats de l'Alliance Verte étaient pires que les résultats des partis politiques pris individuellement. Ça veut dire quoi? Je pense que c'était un signal qui disait que si une alliance de l'opposition venait à se présenter à une élection quelconque, les résultats pourraient être très controversés et très bizarres. On va dire ça comme ça, parce que je ne peux pas parler de fraude tant qu'on n'a pas de preuves, mais en tout cas, il est problématique, on va dire ça comme ça, que quatre partis politiques unis fassent moins que...
D'un seul parti avant, oui.
Le cas du MSP, par exemple,
il y a ce risque.
C'est plus qu'un risque, c'est arrivé. C'est arrivé en 2012. Le MSP avait fait pire l'alliance que tout seul. Donc, je pense qu'il y avait là, a posteriori, un message politique à décoder à l'époque, que nous n'avons pas décodé. Donc, arrivons à 2017, les partis politiques donc, décident de l'option de la participation et décident qu'ils ne participeront pas de façon collective, mais individuellement. Donc, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cet individualisme. D'abord, les partis politiques n'ont pas tous le même poids. Certains ont un poids considérable. Certains ont un certain poids et d'autres n'en ont pas du tout sur le plan social. Donc j'imagine que ces partis politiques ont décidé de faire cavalier seul pour ne pas gaspiller leur voix en faveur d'un autre parti qui n'avait pas le même poids. Deuxième élément, ne pas participer à une élection pour un parti politique, c'est l'équivalent de la chaise vide, c'est l'équivalent aussi d'une disparition de l'espace médiatique. Les partis politiques l'avaient déjà expérimenté et je pense qu'ils en ont tiré des leçons dans laquelle la conclusion à laquelle ils sont arrivés, je suppose, c'est mieux vaut participer, même en ayant peu de sièges, que de ne pas participer du tout. Tout ça, c'est pour dire que le système politique dans son ensemble, laisse peu de choix aux partis politiques. C'est un piège. Je pense que c'est un piège que les partis politiques connaissent, mais qu'ils n'arrivent pas à éviter. Ils voient le piège en face, mais ils tombent dedans parce que c'est le choix entre la peste et le choléra, pour reprendre une actualité très récente.
Oui. Ça veut dire là, ils ont... c'est des choix tactiques, les élections. Mais réellement, ils doivent garder la stratégie. On peut, ça veut dire, aller aux élections séparément, mais garder les dénominateurs communs sur les points sur lesquels ils sont d'accord et continuer le travail. Mais là, ça veut dire, on voit que à chaque fois qu'il y a un regroupement, il y a une division, il y a une explosion, il y a une division. Bon, c'est malheureux. Ça joue un peu... ça veut dire au profit du pouvoir en place.
Tout à fait.
Là, il y a un autre acteur qui est très important. Dans la société, on constate quand même, malgré la situation et tout, la société bouge. Il y a des syndicats, il y a des mouvements sociaux. Ce qu'on voit par exemple actuellement au sud, à Gardaïa, les médecins résidents, les syndicats de l'éducation. Il y a cette dynamique importante, mais qui n'arrive pas à sortir, je ne dirais pas de l'auberge, mais qui n'arrive pas à créer un rapport de force. Il est dispersé. C'est dû à quoi? C'est aussi cette division, on n'arrive pas à créer des ponts de solidarité. Est-ce que c'est toujours dans le cadre de ce système politique qui empêche à ce que même les forces sociales n'arrivent pas à converger?
Vous savez, une force sociale, c'est une force politique. Elle est non partisane, mais c'est quand même une force politique. Donc elle est gérée, j'allais dire, un peu de la même façon que les partis politiques. Il y a, comme vous dites, un dynamisme social extrêmement important. Dans tous les secteurs, du plus sensible, comme le Hadjar, à l'éducation, à la santé. Sauf que, je reviens à mon image de tout à l'heure, ce sont des wagons. Ce ne sont pas des locomotives. Tous ces mouvements sociaux restent corporatistes. Ils restent cloisonnés dans un secteur déterminé. Pour qu'il y ait un mouvement social plus global, il faudrait des points de jonction entre ces différents mouvements. Ces points de jonction n'existent pas. Parce que qui doivent jouer ce rôle? Ce sont les partis politiques.
Les partis politiques, ils s'en éloignent des mouvements sociaux.
Exactement.
Et des mouvements syndicaux.
Ils s'en éloignent pour plusieurs raisons. D'abord, les mouvements sociaux, connaissant l'image que les partis politiques ont, préfèrent rester éloignés.
Déjà, j'ai vu ça pour les médecins résidents. À certains moments, ils disent non, on ne veut pas faire de la politique, notre mouvement. Alors, stratégiquement, c'est faux. Tactiquement aussi, ça veut dire qu'on est en train de bloquer ce mouvement.
Ben, en fait, vous savez, c'est comme un enfant qui refuse que son parent l'aide à marcher. c'est bien parce que l'enfant doit marcher seul. Mais il est évident qu'il ne pourra pas marcher seul tout de suite. On est dans une logique de fractionnement très très profonde des acteurs politiques, sociaux et économiques dans ce pays. Les acteurs sont fractionnés et on fait en sorte de leur montrer que les intérêts d'une corporation ne sont que les intérêts de cette corporation. Que s'ils venaient à les prolonger au niveau d'une autre corporation, ça prendra une autre dimension qui pourra nous amener à une situation incontrôlable. Aujourd'hui, les syndicats, pour certains en tout cas, ceux qui sont les plus actifs, ne veulent pas être catalogués ou ne veulent pas être assimilés à un parti politique parce qu'ils savent en amont que les autorités politiques ne reconnaîtront pas, n'écouteront pas si. Et diaboliseront des revendications socio-économiques si elles sont assimilées à des revendications politiques. Et les mouvements sociaux sont conscients de ça et donc préfèrent jouer sur ça. Mais comme vous dites, effectivement, c'est tactique, mais ce n'est pas stratégique. Parce que seuls, dans tous les pays du monde, dans les plus grandes démocraties, les syndicats ont bien entendu leur autonomie, mais ils sont adossés à une force politique. C'est tout à fait normal parce que il y a un échange politique normal entre une force syndicale qui a la force de travail pour elle, qui a la base sociale pour elle, et le parti politique dont le partenaire, c'est le pouvoir politique. Dans un système normal, un syndicat a des revendications socio-économiques qu'il transmet soit directement, soit indirectement au pouvoir politique. Il n'y a pas de honte, en fait. Il n'y a pas de honte.
Ça veut dire qu'on a diabolisé le politique.
Exactement. Exactement. Il y a diabolisation du politique. Les mouvements sociaux le savent et donc préfèrent jouer la sécurité, entre guillemets. Alors, d'une part, ça leur donne, ça fait d'eux un partenaire acceptable pour le pouvoir politique, mais en même temps, ça les affaiblit grandement parce que leur capacité d'action reste limitée.
Même d'influencer sur les pouvoirs publics.
Restera toujours limitée puisqu'elle sera corporatiste. Et la deuxième raison qui fait que la mayonnaise ne prend pas, c'est que le monde associatif est comme le monde politique fractionné. Mais là aussi, chaque syndicat a son clone. Chaque syndicat a son frère ennemi. Alors vous avez un syndicat qui appelle à une grève cette semaine et son clone dira « Non, 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 nous n'allons pas à cette grève cette semaine. Nous appelons à la grève la semaine prochaine. »
La semaine prochaine, oui. Même dans le même secteur, par exemple, dans l'éducation.
Bien sûr, dans le même secteur.
On trouve beaucoup de syndicats, ils revendiquent pratiquement la même chose, mais ils n'arrivent pas à se converger vers... Donc c'est une manière d'affaiblir le mouvement.
Complètement.
Là, on va parler sur la situation actuelle du pays, ce qu'on constate avec ce qui se passe à l'APN, le blocage de l'APN, le délitement des institutions de l'État, les élections présidentielles, cinquième mandat, pas cinquième mandat. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite lecture de ce qui se passe actuellement? Bien sûr, il a une relation avec les prochaines élections présidentielles, mais ce que nous avons constaté, qu'il y a un seul, ça veut dire le peuple, n'est pas acteur dans tout cela. Donc des choses qui se préparent à l'extérieur pour assurer une transition entre eux, pour se maintenir d'une manière ou d'une autre. Déjà, comment la lecture que vous faites sur la situation, l'évolution des choses durant ces derniers mois, durant au moins ces derniers mois?
Déjà, je voudrais me montrer prudente en disant qu'il y a énormément de confusion. La situation est très confuse et la situation est... Je veux dire que plus on a d'informations et plus
on pose plus de questions.
Exactement. Plus les questions sont nombreuses et les réponses sont de plus en plus difficiles. Ceci étant, je ne vais pas échapper à l'effort de faire une lecture, même approximative. Déjà, je pense que ce qui se passe actuellement au niveau du Parlement, il faut éviter de glisser dans les mauvais concepts. Le Parlement ne peut pas être bloqué, le Parlement ne peut pas être gelé. Soit on a un Parlement, soit le Parlement est dissous. Donc déjà, on est en train d'installer l'opinion publique dans une image qui est fausse. Première chose, pourquoi je dis soit le Parlement fonctionne, soit le Parlement est dissous? Parce que soit il fonctionne avec son règlement intérieur, dans lequel, on le sait, le président du Parlement ne peut pas être démis de ses fonctions, soit le Parlement est dissous et on sait par qui il peut être dissous, par le chef de l'État.
Ça veut dire en cas la situation de blocage continue, donc il ne peut être que dissous par le président.
Oui, blocage, mais qui bloque maintenant? Je veux dire qu'aujourd'hui, le Parlement ne fonctionne plus, pas seulement parce que des députés ont exigé la démission du président du Parlement, mais d'autres pouvoirs politiques, c'est-à-dire l'exécutif, est en train de s'impliquer dans un problème qui est de l'ordre du législatif.
Oui.
Donc on est dans une confusion des pouvoirs, donc pouvoir exécutif et pouvoir législatif, mais vous me direz, quand est-ce qu'on a eu une véritable séparation des pouvoirs? Nous n'avons jamais eu une véritable séparation des pouvoirs. Ce qu'on observe actuellement, c'est un plus grand assujettissement du législatif vis-à-vis de l'exécutif. Pourquoi? Parce que le Parlement, on le sait, ne jouait pas son rôle, son premier rôle, qui est de légiférer.
Et de contrôler.
Le premier rôle, c'est de légiférer déjà. Le Parlement ne légifère pas. Il vote les projets de loi proposés par l'exécutif. Donc c'est déjà un problème en soi. Deuxièmement, le contrôle est lui aussi inexistant dans la mesure où les questions qu'il pose à l'exécutif ne bénéficient pas de réponses suffisamment rapides pour qu'elles aient un sens. Et deux, les commissions d'enquête n'existent quasiment pas non plus au niveau du Parlement. Mais ce que je remarque dans cet épisode, dans l'épisode actuel, c'est que ce qui était de facto est en train de devenir déclaré, est en train de devenir officiel. C'est-à-dire que ce sont des parlementaires eux-mêmes et le président du Parlement lui-même qui remet son sort au chef de l'État. Et ça, c'est très problématique. Je veux dire, quand le Parlement lui-même dit « je dépends de l'exécutif », c'est très problématique.
Maintenant, ça confirme qu'il n'y a pas séparation du pouvoir.
Exactement. Maintenant, pour mettre ça dans son contexte, là, c'est dans le factuel, on est dans le factuel. Mais quand on remet cet épisode dans le temps long du système politique algérien, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas une rupture, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je crois que nous sommes dans une logique où les institutions de l'État sont instrumentalisées par les forces politiques au lieu que ce soit le contraire. Normalement, l'institution absorbe la force politique. Nous sommes dans une logique inverse, ce sont les forces politiques qui absorbent les institutions de l'État, dont le but est de faire d'un système chrysogène et de donner l'apparence d'une nouvelle crise politique. Pourquoi? Parce que le système politique algérien trouve sa force dans la gestion des crises. C'est dans la gestion des crises qu'il renouvelle sa légitimité, qu'il renforce son influence et son assise. Pourquoi? Parce que, comme on le disait au début de cet entretien, la priorité pour le pouvoir politique comme pour les Algériens reste la sécurité. Et quand il y a instabilité, on donne à cette volonté de maintenir la sécurité une assise et une dimension encore plus grande.
Merci beaucoup, Madame Louisa Dressette Hamadouche. On est arrivé à la fin de cet entretien. Si vous avez un mot à dire à l'occasion du 30e anniversaire, quand même, il y a la lutte des générations depuis l'indépendance à ce jour pour arracher des acquis démocratiques. Et surtout, il y a des défis d'aller vers la construction d'un État de droit et démocratique.
Ah, mais vous savez, je vais vous dire ce que je dis à mes propres enfants, c'est que rien n'arrive gratuitement dans la vie et que tous les objectifs qu'on peut poursuivre, tous les buts qu'on peut avoir dans la vie ne viennent qu'avec beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc on est à 30 ans du 5 octobre. J'espère que dans 30 ans, on aura un bilan beaucoup plus positif que celui-ci.
Dans 30 ans, donc il fallait 60 ans après octobre 88. L'essentiel, on est là, on essaye de faire chacun de son côté ce qu'il peut pour améliorer la situation. Merci une autre fois, auditeurs et auditrices, on vous donne rendez-vous avec un autre entretien. Au revoir.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.